La techno est partout. Depuis 30 ans, la techno s'est infiltrée partout dans nos vies, petit à petit, pas à pas. Au fil du temps, nous avons vu fleurir avec les nouvelles technologies des nouveaux usages, des nouvelles habitudes, des nouveaux modèles aussi. Que tu sois génération X, Y, millennials ou encore Gen Z, il nous est de plus en plus difficile, voire impossible pour certains de nous souvenir du jour où nous n'avons pas été en contact avec un objet technologique, avec un outil numérique. Quels sont les impacts sur nous tous liés à ces mutations technologiques? Et si, pour mieux comprendre, on se faisait un petit revival des technos, un petit revival de nos meilleurs souvenirs aussi, pour reprendre un coup de jeune et bien comprendre l'impact de ces mutations technologiques, l'invité de cet épisode du podcast est Philippe DeVost, c'est le directeur général d'Epita et l'auteur de l'ouvrage « De mémoire vive » paru aux éditions Première Partie. Bonjour Philippe.
Bonjour BPC.
On va démarrer peut-être avec une première question. Quand on parle de mutations technologiques, on parle de quoi ?
On parle essentiellement d'un accroissement vertigineux de la puissance de calcul disponible et d'un accroissement vertigineux concomitant de la vitesse de transmission des réseaux, si bien qu'aujourd'hui, des milliards d'humains sont interconnectés sur la planète et disposent d'une capacité de non seulement de communication, mais également de traitement absolument inouïe. Pour juste prendre une analogie, quand j'étais étudiant, j'ai eu droit à 20 minutes, je dis bien 20 minutes, de temps de calcul sur le CRE2 qu'utilisait le CEA pour modéliser un certain nombre de phénomènes physiques. Aujourd'hui, il y a la puissance équivalente de milliers de ces machines, de ces supercalculateurs dans chacune de vos poches.
Votre bande d'intelligence qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune, finalement, on l'a tous dans nos poches. Ça a changé quoi ? Ça a eu quel impact pour chacun d'entre nous, Philippe ?
Je pense que d'abord, ça a fondamentalement automatisé un très très grand nombre de processus qui jusque-là étaient manuels. Ça a permis de gagner un temps considérable et ça a permis simultanément de perdre un temps considérable. C'est en 2003 que Sony Ericsson avait théorisé cette notion de micro-moment, c'est-à-dire tous ces instants dans la journée où pendant une, deux ou trois minutes, vous aviez la faculté de ne rien faire. Et ces micro-moments sont désormais occupés à la lecture de messages, à la consultation de différentes applications, au déplacement de petits bonbons colorés dans Candy Crush. Moi, il m'arrive de prendre le métro assez régulièrement. Et c'est très amusant parce que quand on fait le choix de prendre le métro et de ne pas sortir son téléphone, et qu'on regarde autour de soi, dans un wagon de métro, on va voir deux livres papier et on va voir tout le reste des passagers, essentiellement faire défiler du pouce des images sur leur téléphone, que ce soit le réseau social, sur lequel ils se trouvent, ou bien de jouer à divers jeux variés. Et je trouve que c'est un usage très intéressant de cette puissance de calcul surabondante qui est utilisée, encore une fois, à meubler, combler les quelques instants disponibles qui se succèdent dans une journée.
Ça fait vraiment penser, tu sais, à cette image du vase dans lequel on le remplit avec des gros cailloux, puis on se dit la journée est pleine, hein, si on le symbolise, et puis finalement on arrive à ramener du sable ensuite, et puis on a l'impression qu'il est plein, puis on peut ramener encore d'autres choses, et puis après on peut ramener de l'eau aussi. Et c'est vrai que c'est important de voir que on peut finalement profiter, et j'aime bien ton analogie avec les micro-moments, de plein de choses pour apprendre, pour perdre son temps aussi. Il y a aussi cet impact sur on perd son temps.
Bon, ça, c'est difficile à évaluer parce que simultanément, on en gagne énormément. Moi, je suis frappé de voir que de plus en plus d'activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont maintenant disponibles et qu'on peut les mener à bien uniquement depuis un smartphone. C'est depuis un smartphone que je suis en train de te parler. C'est également depuis un smartphone que je suis en train, dans mes micro-moments à moi, d'interagir avec nos étudiants, d'interagir avec notre corps enseignant, mais également de faire avancer un certain nombre de projets. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que avec un seul outil, on est capable de prendre soin de faire avancer des sujets extrêmement extrêmement importants, comme de penser à ses proches ou de leur faire signe, de garder le lien avec tels et ceux auxquels on tient et qui sont très loin. Ou bien encore une fois de choisir délibérément de perdre son temps et de se distraire. Et tout ça est un peu mélangé. La seule chose finalement qui est assez difficile à faire depuis un smartphone, c'est de faire ce pourquoi aux origines, l'ordinateur a été conçu, à savoir de développer des logiciels, de faire avancer soit la science, soit les technologies. Et là, on est encore un tout petit peu limité par la surface de l'écran, et encore, et surtout par l'absence d'un clavier.
Dans ton ouvrage, il y a plein de punchlines. J'avoue, j'ai adoré, hein, je te l'ai dit. J'ai trouvé cet ouvrage vraiment passionnant. Il y en a une qui m'a marqué. Tu as dit « Nous sommes la dernière génération à savoir comment le monde était avant. » Nous sommes la dernière génération à savoir comment le monde était avant. C'est tellement vrai, et tu en tires quelle leçon, Philippe ?
Je pense qu'il y a, comment dire ça, il y a plusieurs leçons à en tirer. Je pense que chacun verra midi à sa porte et verra les propres leçons qu'il retient en priorité. Mais pour ça, il faut accepter, il faut oser poser les questions et oser s'interroger et se demander pourquoi et se demander d'où on vient et d'où ça vient. Et c'est en ça que j'écris qu'on est la dernière génération à savoir comment le monde était avant, parce que une grande partie de tes auditeurs, toi-même et évidemment ton serviteur, nous avons connu, traversé, parfois accompagné, parfois subi, parfois piloté cette très grande transformation qui a vu l'arrivée, encore une fois, d'une abondance phénoménale de puissance de traitement et de puissance d'interconnexion des personnes. Si bien qu'aujourd'hui, on commence à croiser, et notamment parmi mes étudiants à l'EPITA, un certain nombre d'entre eux qui ne se représentent même pas l'idée que le monde ait pu tourner, que l'humanité ait pu se développer, que l'économie ait pu se développer, que la révolution industrielle ait pu se propager, alors même qu'il n'y avait rien. Et ça conduit à des questions amusantes, ça conduit à une remarque qu'on trouve de plus en plus qui est « Tiens, le Wi-Fi marche pas », alors que les personnes veulent simplement dire qu'ils ne parviennent pas à se connecter à Internet. Mais c'est aussi une autre question qui vient plutôt des plus jeunes et qui est de se dire « Ok, ça va, j'ai compris qu'il y a une époque où il n'y avait pas de smartphone, j'ai compris qu'il y a une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, mais alors j'ai une question, comment vous faisiez pour vous connecter à Internet avant ?» et du coup, cette absence de recul sur la manière dont les choses se sont enchaînées, orchestrées, le fait que tout est apparu, mais pas par hasard et dans un ordre qui n'était pas lui-même le fruit du hasard, tout ça leur échappe complètement. Et tu vois, vendredi soir, je faisais une séance de dédicace en amphi devant nos étudiants. Et ils étaient fascinés de découvrir d'où toutes ces technologies avaient puisé leur origine. J'ai fait exprès circuler dans la salle un certain nombre de vieux téléphones que certains appellent maintenant des 9 touches, alors qu'ils ont beaucoup plus de boutons que ça. J'ai fait circuler des machines emblématiques que tu as peut-être eu un Sony Ericsson T68. Tu as peut-être un Motorola. Voilà.
Ouais, ça parle à tout le monde, ça.
Et c'était des machines de dingue parce que c'était des machines à la fois capables de faire énormément de choses à l'époque, qui avaient un volume et un poids absolument ridicules. Et d'une certaine manière, Sony Ericsson a fait un contresens monstrueux en essayant de miniaturiser le plus possible une machine qui du coup avait un écran certes couleur, c'était un des premiers écrans couleur du marché, on est en 2003, mais qui était tellement petit qu'il n'était quasiment rien possible de faire avec. Quand je leur ai mis ces appareils dans les mains et que je les ai vus circuler dans la salle, il y en a certains qui ont essayé de prendre des photos avec et qui se sont aperçus que la capacité et la qualité des caméras étaient exécrables. Mais la plupart d'entre eux, en revanche, ont admiré le design de ces objets puisque, à l'époque, on est un peu comme au Jurassique, tu sais, juste avant la grande extinction de masse. Et au Jurassique, il y a un tas d'espèces animales qui ont toutes des formes, des tailles, des couleurs, des capacités variées, et qui subitement vont quasiment toutes disparaître pour laisser la place à un nouvel ordre animal. Et ben, la plupart de nos étudiants ne se représentent absolument pas. La plupart de vos enfants, si vous en avez, ne se représentent absolument plus la diversité, la variété du bestiaire, du zoo que représentaient tous ces appareils, alors que pourtant ils sont apparus les uns après les autres à mesure que les capacités technologiques permettaient leur apparition.
Jean-Emmanuel Rebondy nous dit, serions-nous les dinosaures de l'ère digitale? Ça, c'est la première question. Et quand tu parles justement de ces nouveaux êtres animaux, de ces nouvelles êtres animales, il est comment ce jeune qui lui, n'a pas connu cette phase avant? Il est comment face au digital et face aux mutations technologiques?
Et on pourrait dire que le jeune aujourd'hui, alors je les connais évidemment pas tous et je prétends pas avoir fait une sociologie à partir de quelques centaines d'étudiants, on en a 3000 à l'EPITA aujourd'hui. Mais le jeune, il est d'abord utilisateur et il est utilisateur de manière totalement spontanée. Je pense que la révolution que ont connue ou après laquelle ils arrivent est une révolution qui passe du cerveau au doigt. Et le pouce est aujourd'hui le principal organe humain utilisé avec ces technologies. Alors bien sûr, il y a le cerveau derrière qui enregistre, qui imprime, qui réagit, mais qui finalement fonctionne selon une grammaire beaucoup, beaucoup plus réduite, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus spontanée. Le jeune aujourd'hui est connecté en permanence et surtout, il a développé une capacité très étonnante qui finalement rappelle les difficultés qu'on avait avec nos machines, nous les dinosaures, qui est qu'il fait du, je vais utiliser un acronyme anglophone barbare, mais il fait du contexte Twitch en permanence. Il est capable de gérer, il est capable d'être massivement parallèle dans ses interactions et dans sa dans la fragmentation de tous les sujets qu'il couvre. Du coup, il couvre une surface sociale, une surface émotionnelle, une surface d'intelligence beaucoup beaucoup plus vaste, peut-être au détriment d'une certaine profondeur. Et notamment d'une profondeur historique, mais pas uniquement. Et c'est quand justement je les interroge, je les éveille sur ces questions, que je m'aperçois de manière fascinante que la curiosité se réveille, commence à se demander pourquoi, qui commence à s'intéresser à tous les enchaînements qui ont conduit aux outils qu'ils utilisent. Et je terminerai en disant que ces outils sont extrêmement peu différenciés parce que aujourd'hui, au fond, ce que tu as dans la main, indépendamment de la marque et du modèle que tu utilises, c'est un rectangle noir avec des bords arrondis pour pas se faire mal et qui ne se distingue finalement, quand il est éteint en tout cas, que par ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a au dos, que je trouve assez amusant parce que tu ne regardes jamais la caméra de ton téléphone, tu regardes uniquement ton écran noir, c'est à travers lui que tu interagis et au fond, on a vu apparaître une uniformité considérable qui accompagne évidemment une diversité colossale de tous les usages permis par cet objet.
Question pour le directeur général de l'EPITA, donc pour toi Philippe, une question de Laura. Comment fait-on pour transmettre à ces générations Z et ces générations Alpha l'histoire pour qu'ils et elles gardent le recul sur la tech? Vous y prenez comment?
Je pense qu'on s'y prend encore assez mal parce qu'on est tout juste en train de découvrir qu'il est non seulement intéressant, probablement utile et peut-être même nécessaire de les ouvrir à ces questions. La meilleure manière que j'ai trouvé pour l'instant de transmettre dans ce domaine, ça a été un peu accidentellement quand j'ai commencé à intervenir en conférence il y a une dizaine d'années, quand j'ai constaté que je suis intervenu face à des publics de plus en plus larges. J'ai commencé par des personnes de ma génération et puis j'ai eu l'occasion d'intervenir devant des élèves de terminale. J'ai le souvenir de conversations hallucinantes au sujet des crypto-monnaies, au sujet de Bitcoin. Et progressivement, quand on les ouvre à la possibilité de demander pourquoi, quand on leur dit que c'est normal de s'interroger, que c'est même nécessaire et qu'il faut même en tant qu'étudiant s'autoriser à poser des questions, alors ils entrent dans la curiosité. Si en plus, de manière un peu pédagogique, on leur met des objets dans les mains, ce que je disais tout à l'heure, là on réveille vraiment les interrogations et on les invite à comprendre que cette histoire n'est pas du tout une suite d'enseignements technologiques, mais bien une aventure avec ses héros, ses trahisons, ses échecs, ses tentatives diverses, et dans laquelle patiemment leurs prédécesseurs ont essayé, échoué, parfois réussi. Ça amuse beaucoup les étudiants de découvrir, par exemple, qu'un certain nombre de produits ont eu leur heure de gloire et ont été totalement dominants, mais pendant finalement des laps de temps assez courts. On reviendra peut-être dessus, mais l'histoire de Nokia est ahurissante de ce point de vue. Et d'une certaine manière, on est en train de s'apercevoir que le besoin se fait sentir de ce que j'appellerais en enseignement des humanités numériques, au sens, tu sais, des humanités qui étaient ce qu'on enseignait au début du XXe siècle à tous les jeunes femmes et tous les jeunes hommes qui, à la fin de leur cycle d'études secondaires, se préparaient à entrer directement dans la vie active. Et bien, ils avaient un socle de connaissances tournées autour de un peu de science, un peu de philosophie, un peu d'histoire, et avec lesquels c'était le bagage minimum avec lequel ils étaient armés avant d'emprunter les sentiers de la vie. Et ben, d'une certaine manière, ce que j'essaie de faire maintenant, à la fois à l'oral et puis plus récemment à l'écrit, c'est de les doter d'un petit bagage qui va leur permettre ensuite, tout au long de leur vie professionnelle, de demander pourquoi et de ne jamais se laisser, entre guillemets, prendre dans une utilisation complètement inconsciente des outils dont ils se servent. La première personne qui devrait demander pourquoi, si je te prends juste le contexte des entreprises, hein, puisqu'un certain nombre de tes auditeurs travaillent en entreprise, j'imagine, la première personne qui devrait demander pourquoi dans une entreprise, c'est évidemment le dirigeant qui ne devrait jamais s'arrêter ou de laisser imposer une décision à prendre tant qu'il n'a pas pleinement compris la mesure et les conséquences de la décision qu'il prend. Ces conséquences, de mon point de vue, sont rarement anodines.
Tu penses que les communicants racontent n'importe quoi sur ces mutations technologiques ?
Alors, pas dans tous les cas. Et dans la plupart des cas, non, ils ne racontent pas n'importe quoi. Ceux qui ont parfois tendance à raconter n'importe quoi, ce sont les conseillers d'un certain nombre de dirigeants d'une part, y compris dans la sphère politique, et ce pour une raison qui leur échappe et pour laquelle, d'une certaine manière, ils n'y sont pour rien. C'est-à-dire que dans un monde comme le nôtre, dans lequel tout va très vite et dans lequel il est important d'être ultra synthétique, de tout résumer, et puis dans certains cas, effectivement, pour les communicants, d'aller chercher une punchline, eh bien, on fait des réductions parfois drastiques. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, à l'époque où je me suis intéressé à Bitcoin et aux cryptos et à la blockchain, quand j'étais à la Caisse des dépôts, on est en 2014-2015, et je suis intervenu plusieurs fois dans des conférences ou dans des interviews internes ou externes, où la première question qu'on me posait, c'était « Est-ce que vous pouvez me résumer Bitcoin et la blockchain ? Nous avons 3 minutes. » Et là, je leur expliquais si on ne me donnait que 3 minutes, j'allais formuler la réponse suivante, c'était qu'il s'agissait probablement d'une des mutations technologiques, culturelles et politiques les plus importantes du début du siècle. Et puis je disais ensuite, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Moi, comme ça, c'était la bonne façon pour évacuer. Tiens, je vais prendre la question de Vanessa. Elle te demande, y a-t-il eu des mutations cérébrales avec les mutations technologiques ?
Alors, je suis pas neurologue, je suis pas médecin et je suis pas non plus sociologue de la petite enfance, mais la question de Vanessa, elle est très intéressante parce que elle, d'une certaine manière, elle révèle une question sous-jacente, ou en tout cas un enjeu sous-jacent, c'est que ces technologies aujourd'hui évoluent beaucoup plus rapidement que notre capacité à les assimiler en profondeur. Nos enfants et nos plus jeunes sont de véritables éponges. Ce qu'on voit très bien, et ça avait été très bien montré par Jean-Louis Constanza, c'est que l'usage précède la pensée. Vous mettez n'importe quel tout petit devant une tablette et vous vous apercevez très très vite, que toute la grammaire gestuelle s'apprend en l'espace de quelques minutes. Réciproquement, ça n'est que depuis quelques années qu'un certain nombre d'études commencent à apparaître sur la manière dont l'usage de ces technologies reconfigure ou en tout cas modifie le comportement des plus petits, modifie probablement leur je vais parler à nouveau anglais, leur attention span, c'est-à-dire leur capacité à se fixer sur un sujet pendant une durée excédant 30 secondes. Et il y a probablement des mutations, probablement un recablage, mais dont je ne suis pas certain qu'il soit uniquement médical, il est aussi sociologique, je pense. Je me souviens très bien de la fascination qu'exerçaient toutes ces technologies digitales auprès des parents il y a une dizaine d'années, qui n'avaient qu'une trouille, c'était que leur petit soit largué dans ce monde en constante évolution et qui leur mettait très vite des outils dans la main, à la fois parce que ça faisait moderne et puis à la fois parce qu'ils souhaitaient que leurs enfants soient le plus rapidement possible en prise avec ce monde. Et puis, on a l'impression que un certain nombre d'études montrent à quel point il est structurant dans le développement d'un enfant d'apprendre ou de réapprendre à s'ennuyer, d'apprendre ou de réapprendre à observer le monde réel, et ce avec directement au moyen de leurs yeux et non pas avec l'intermédiation de ce qu'on appelle aujourd'hui un écran. Voilà un très bon exemple PPC de ces espèces de réductions ultra rapide qu'on fait et qui masque une partie de la réalité, notamment quand on dit les écrans, quand on parle de nos enfants et les écrans. Le sujet, c'est pas l'écran. Le sujet, c'est l'écran qui, d'une certaine manière, masque toute une couche de complexité, de services, de connectivité, de puissance de calcul et de traitement, et qui n'est que l'interface. Mais quand l'interface avec le monde réel se limite à des écrans, les interactions sont à la fois très riches sur le plan émotionnel et probablement un peu plus limitées sur le plan de la sollicitation de l'ensemble des sens qui constituent les interfaces entre l'être humain et son environnement réel.
Pour ceux qui ne connaissent pas, on a parlé de Jean-Louis Constanza tout à l'heure, hein, c'est très simple, il a filmé l'un de ses enfants qui était en train d'être avec un magazine et qui s'énervait sur ce magazine. il le considérait comme un iPad, en fait. Il tournait les doigts sur l'écran et ça marchait pas. Enfin, sur le papier, ça marchait pas. Et donc, Jean-Louis Constanza a sorti un magazine. C'est un iPad qui ne fonctionne pas. Voilà, c'était très chouette. Dernière question avant de nous quitter. Malheureusement, cet épisode du podcast touche à sa fin. C'est la question de Pascal. Elle te demande, quand nous, les dinosaures, ne serons plus là, quelle transmission pour les enfants de cette génération Z et Alpha ?
Mais je suis de plus en plus convaincu qu'il il faudra, et Jean-Michel Blanquer, si vous écoutez, merci de prendre en compte ce que je vais dire, je suis de plus en plus convaincu que dans le corpus de savoirs fondamentaux qu'il serait utile d'enseigner à nos enfants, à nos adolescents et à nos futurs étudiants, il y aura, encore une fois, un cours d'humanité numérique ou d'histoire des technologies numériques. Et d'une certaine manière, mon ambition avec De mémoire vive, c'est de mettre sur le marché le premier livre d'histoire portant sur le sujet et de regarder, encore une fois, comment celui-ci déclenche la curiosité. Mon seul objectif, au fond, c'est que celles et ceux qui liront ce livre referment la dernière page en se disant « ça y est, je suis autorisé à demander pourquoi, tout ceci n'est pas anodin, il y a plein de choses à apprendre fascinantes sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui le digital et les technologies numériques, et c'est un sujet d'intérêt pas uniquement pour les universitaires ». Je conclurai de mon côté en rappelant cette conviction fondamentale qui a été énoncée par plusieurs personnes et que je reprends tout à fait à la fin du livre, qui est que quand on veut modifier, et la tentation est très très grande de nos jours à chaque changement de gouvernement, vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui modifie les programmes. Moi, je suis convaincu personnellement qu'il y a trois matières avec lesquelles il ne faudrait jamais, jamais négocier, qui devraient toujours, toujours rester dans le cœur des programmes tout au long du collège et probablement du lycée. Et ces trois matières fondamentales, ce sont les mathématiques et les sciences de manière plus générale, dans lesquelles on ne peut pas mesurer, comprendre et comparer. La philosophie, sans laquelle on ne peut pas comprendre et interroger plus en profondeur le monde qui nous entoure. Et l'histoire, parce que l'histoire, elle nous indique d'où on vient. Et encore une fois, cette jeune génération qui ne pas et ne s'intéresse pas à la manière dont le monde était avant, d'une certaine manière gomme d'un geste, gomme avec trois doigts, quelques milliers d'années pendant lesquelles l'humanité s'est patiemment constituée, s'est mise à interagir, s'est mise à se développer, et toute la révolution industrielle de la fin du 19e siècle s'est produite absolument sans aucun smartphone, et pourtant elle nous a permis d'être et d'interagir et de travailler comme nous le faisons aujourd'hui.
Les mathématiques, la philosophie et l'histoire, pour ne pas aliéner le futur, non, n'aliénez pas le futur. Et c'est important d'avoir ces trois matières bien en tête. Mille merci, Philippe, d'être venu ce matin échanger avec nous tous pendant ce direct. Un épisode trop court parce que, oh, combien passionnant. Je vous encourage, et c'est rare que je fasse la promo, mais allez vraiment découvrir son ouvrage De mémoire vive, paru aux éditions Première Partie. Je vous avoue, j'ai pris vraiment un sacré pied à lire toute cette histoire qui s'est écrite, qu'on a vécue d'ailleurs, qu'on a connue.
Un dernier petit mot, un bon moyen de découvrir le livre, en tout cas de vous faire une petite idée de ce qu'il y a dedans et de la manière dont il est écrit, c'est tout simplement sur votre navigateur de taper http://2/2/trop, mais ça, Tim Berners-Lee se retourne non pas dans sa tombe, mais autour de son bureau. Donc, http://epi.to. Rien de plus facile à taper, ça vous donnera la préface, ça vous donnera quelques têtes de chapitres, ça vous permettra de naviguer dans l'ensemble des notes qui constituent.
Voilà, epi.to, voilà, c'est noté. Merci à toi, on se retrouve demain matin 7h30 en direct, on va parler de copywriting et de vente en ligne, quels impacts et quels résultats. L'invité du podcast, ça sera Selim Niederfer. Il est auteur du guide du copywriting, page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux, 50 techniques pour vendre en ligne. On va voir tout ça. On va essayer de comprendre tout ce qui se passe derrière. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.